Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, il est considéré comme l'éminence grise du FPE. Herbert Kickl a forgé la stratégie du parti d'extrême droite autrichien depuis une vingtaine d'années. Il en a conçu les campagnes les plus islamophobes. L'homme de l'ombre sort dans la lumière aujourd'hui pour prendre les rênes de l'intérieur, un ministère clé dans l'Autriche actuelle, Céline Béal.
Il est connu comme le créateur des slogans les plus frappants du FPE, qui invoquait en 2010 par exemple un sang viennois qu'il faudrait protéger contre les étrangers. Fils d'une famille ouvrière de Carinthie, Herbert Kickl a fait ses armes en écrivant les discours du leader historique Jörg Haider. Lors du départ de celui-ci, il reste et aide Hans Christian Strache à reconstruire le parti. Ancien étudiant en sciences politiques et en philosophie, il est considéré comme le cerveau du FPE, mais les mauvaises langues l'appellent aussi le cerveau de Strache. Il faut dire que jusqu'alors, le chef charismatique occupait le devant de la scène, tandis que son second restait dans l'ombre. Mais Herbert Kickl est maintenant installé au puissant ministère de l'Intérieur. Le combat contre l'immigration illégale et la soi-disant tolérance mal à propos sont les maîtres mots qu'il s'est fixés. Mi-janvier, c'est cependant un autre mot qui a provoqué l'émoi, lorsque le nouveau ministre a annoncé son intention, pour garantir la sécurité des Autrichiens, de concentrer les demandeurs d'asile dans des structures spéciales. Le cerveau du FPE a fait mine de ne pas voir le problème de ce vocabulaire qui évoque le nazisme. Même sur le devant de la scène, l'éminence grise ne semble donc pas encline à modérer ses propos.
Lorsque l'on vit dans un petit pays de 5,5 millions d'habitants et que l'on parle une langue rare et difficile comme le finnois, quoi de plus normal que d'apprendre l'anglais et de le parler plutôt bien? Sauf que ces dernières années, la langue de Shakespeare s'impose de plus en plus, notamment dans l'enseignement, au détriment d'autres langues étrangères, ce dont s'inquiètent certains enseignants finlandais. Dans le même temps, des municipalités veulent aller encore plus loin et instaurent l'anglais carrément comme langue de travail. Le reportage de Laurent Berthaud commence dans un groupe scolaire au nord de Helsinki.
C'est l'heure d'entrer en cours de français pour ces élèves d'une douzaine d'années. Cela fait 4 ans qu'ils l'étudient et la leçon du jour porte entre autres sur les verbes du deuxième groupe.
Nous choisissons.
Vous choisissez.
Vous choisissez.
Ils choisissent.
Ils choisissent.
Dans cet établissement, pas moins de 4 professeurs de français ont choisi d'enseigner les subtilités de la langue. Une situation tout à fait exceptionnelle, comme le souligne l'enseignante Sanna Karpanen, également présidente de la Fédération des professeurs de langue vivante, Soukol.
Quand la Finlande est devenue membre de l'Union européenne, 25% des jeunes ou d'élèves étudiaient l'anglais et une deuxième langue européenne, soit l'allemand, soit le français. Et maintenant, c'est 6% ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment une chute assez violente. Et pourquoi on est arrivé là? En Finlande, il y a une tendance de penser que l'anglais suffit partout dans le monde et peut-être les langues ne sont plus considérées très importantes.
La cathédrale de Helsinki est plus grande que...
Résultat, en dehors des grandes villes comme Helsinki, Tampere ou Turku, le français ou l'allemand sont désormais considérés comme des langues rares. Une évolution due également au système éducatif finlandais, comme le rappelle Jorma Kauppinen de l'Agence nationale finlandaise pour l'éducation.
La Finlande est un pays bilingue, qui a donc deux langues officielles, le finnois et le suédois. À l'école, tout le monde doit apprendre ces deux langues. Les élèves doivent aussi apprendre une langue étrangère obligatoire. Et la plupart du temps, c'est l'anglais, à 97%. La décision en revient aux municipalités, car ce sont elles qui financent les écoles. Si elles le veulent, elles peuvent aussi proposer des cours d'allemand, de français ou de russe.
Tout finit à quelle heure?
C'est parce qu'elles sont confrontées à des arbitrages budgétaires et sous la pression des parents que les municipalités donnent la primeur au cours d'anglais. Une décision lourde de conséquences pour l'avenir du pays, estime Sana Karpanen.
Les industries qui veulent justement exporter des produits disent déjà qu'on voit qu'il n'y a pas des gens qui puissent travailler dans d'autres langues. Et ça, c'est bien évidemment, ça c'est assez grave. Donc c'est une question économique. Je pense aussi que c'est une question de mentalité. Donc si on est trop enfermé, ça ne peut pas être bien. Parce que le monde, ce n'est pas seulement un monde anglais ou un monde anglophone. Et quand on étudie une langue, c'est toujours une fenêtre, une porte vers une autre culture ou une autre façon de penser. Et si on perd ça, on perd beaucoup de choses.
Juste à l'ouest d'Helsinki, la ville d'Espoo n'a, elle, aucun état d'âme à miser à fond sur l'anglais. Seconde ville de Finlande, avec pas loin de 300 000 habitants, elle abrite les sièges de nombreuses entreprises internationales où l'anglais est la langue de travail. Ce qui, en 2017, a incité la municipalité à faire de l'anglais la troisième langue de la ville. Markku Markkula, membre de l'équipe municipale.
De plus en plus de gens vivant ou travaillant ici sont originaires de toute l'Europe, du monde entier même. Dans nos écoles, nous avons recensé plus de 100 nationalités différentes. On parle l'anglais un peu partout, dans les entreprises, mais aussi à l'accueil des différentes administrations et services municipaux, dans les centres de loisirs. C'est la raison pour laquelle l'anglais a été choisi comme troisième langue. Une langue de travail, car la Constitution n'autorise pas de troisième langue officielle.
Véritable symbole de cette politique, l'inauguration il y a un peu plus de 2 ans de l'école internationale d'Espoo, où tous les cours sont donnés en anglais. Ce jour-là, en cours de menuiserie, je croise Ada, Emma et Iris, une Hongroise et 2 Finlandaises âgées de 11 ans depuis quelques jours pour Iris.
Je parle anglais depuis le jardin d'enfants. Même si je suis née en Finlande et que mes parents sont finlandais, j'ai donc appris à parler anglais couramment. Et c'est pour ça que je suis dans cette école anglaise.
Ok, numéro 2B. Que vont les garçons mettre dans leur bagage? So what are the boys going to pack in their suit?
Dans cet établissement, la majorité des parents d'élèves vient de l'étranger. La garantie d'une ouverture sur le monde pour tous les enfants, selon la principale Anne-Marie Rappeau.
Nous cherchons à donner une dimension internationale à notre enseignement. Nous célébrons la plupart des fêtes du monde entier. Nous recevons beaucoup d'invités qui viennent nous parler de leur pays, de leurs traditions et de leurs origines. Cela nous permet de donner une autre dimension à nos propres vies. Peut-être que ce qui nous distingue, ce n'est pas seulement d'enseigner en anglais, mais bien de conserver cet état d'esprit ouvert et globalisé qu'ont les familles qui ont vécu à l'étranger.
La municipalité d'Espoo veut d'ailleurs aller plus loin. Les élèves de toutes les écoles primaires de la ville auront bientôt 1 heure d'anglais obligatoire par semaine. Autre ambition, que tous les services publics de la ville soient à même d'accueillir les visiteurs en anglais, y compris dans les hôpitaux. Et cela inquiète beaucoup Mariut McLean. Cette infirmière représente le syndicat du personnel médical TEHU.
All the staff doesn't speak English.
Déjà, tous les personnels médicaux ne parlent pas anglais. Dans la vie quotidienne ou comme touriste, oui, mais c'est autre chose de maîtriser le langage médical. C'est pas comme aller passer ses vacances à Majorque. Le second souci, c'est la sécurité du patient. Une infirmière qui parle mal anglais avec un patient qui ne le maîtrise pas très bien, ça peut conduire à des accidents, s'il comprend mal, par exemple, comment prendre ses médicaments. Enfin, il y a la question de la qualification. L'employeur doit mettre en place des cours, des examens, et la ville d'Espoo doit mieux payer les personnels qui auront été qualifiés.
Cette syndicaliste insiste également sur la nécessité de conserver des traducteurs dans les hôpitaux, alors que la Finlande accueille elle aussi son lot de réfugiés qui tous, loin de là, ne sont pas anglophones.
C'est la fin d'une époque en Grèce avec la mort de Jimmy Panoussis à l'âge de 63 ans. De son vrai nom, Dimitrios Panoussis, le chansonnier laisse derrière lui un héritage humoristique qui a longtemps tranché dans le paysage du showbiz grec. portrait de ce chanteur, acteur, qui s'attaquait à tout le monde et surtout au sujet qui fâche Charlotte Stevenard.
Avec sa barbe blanche fournie et son air bonhomme, Jimmy Panucci s'était parfois pris pour un prêtre orthodoxe. En visite dans un monastère, une dame lui avait même baisé la main comme c'est l'usage avec les pop. Il avait ri et répliqué avec une pointe d'ironique avec toutes les imitations de religieux qu'il avait faites au cours de sa carrière. Il avait bien mérité ce baise-main. En réalité, Jimmy Panucci se revendiquait plutôt un art. Tellement d'ailleurs que dans les années 80, cet acteur en herbe n'avait pas supporté le travail dans une banque. Au bout de 2 ans et demi et quelques grèves, il avait envoyé une lettre de démission dans le ton de ses spectacles. Elle commençait par cette phrase « Je refuse de jouer le rôle de l'employé de cette grande amie du peuple grec, la Banque Nationale, Nationale, comme dans Théâtre National, Galerie Nationale ou National Socialisme. » Mais c'est par la chanson qu'il s'était fait connaître. On retiendra le titre « Nouveau grec ». Il y critiquait les exagérations de la société des années 90 avec la télé-poubelle, la bétonisation à outrance et la chirurgie esthétique et des paroles qui résumaient tout et qui sont aujourd'hui souvent reprises. « Je veux être comme un Américain, mais j'écoute en cachette Mitropanos » en référence à un chanteur populaire, une façon de décrire la tension qui existait entre le désir des Grecs d'accéder rapidement à la modernité et la réalité de l'époque. Pour résumer, Jimmy Panucci se tirait à droite et à gauche. Sur le nationalisme, il avait été poursuivi à plusieurs reprises par la justice pour avoir malmené les symboles grecs comme le drapeau. Et sur le communisme, il se moquait régulièrement de ce parti encore puissant en Grèce, mais sclérosé selon lui. Ses blagues, parfois sexistes, représentatives d'une époque, ne plaisaient pas à tout le monde, mais le personnage laissait rarement indifférent.
Vous en avez peut-être dégusté pendant les fêtes le caviar, ces petites perles noires au goût marin si caractéristique, convoitées par les palais les plus fins. Avant d'arriver dans nos bouches, ces œufs font souvent un long voyage, un chemin que suit attentivement l'Union européenne. L'importation de ce produit d'exception est strictement contrôlée. Au centre de toutes les attentions, la protection des consommateurs et des esturgeons, Alice de Paty nous emmène dans le plus grand laboratoire de caviar de Belgique.
Dans le hangar de Caspian Tradition, 16 tonnes d'œufs transitent chaque année. Aria Razavi est la directrice de l'établissement. Elle nous ouvre les portes de son frigo.
Là, comme vous pouvez voir, on ne va pas rentrer, il fait très froid. Oui, bien, toutes ces caisses, ce sont des caviars.
Et il vient d'où ce caviar ?
Partout dans le monde, ici on a des caviars qui viennent d'Iran, de Finlande, de Chine, de Uruguay, de l'Europe, de tous les pays européens. Partout aujourd'hui on fait l'élevage.
Pour vendre ce caviar, les producteurs hors Union européenne doivent avoir un numéro de CITES. CITES, la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction. Convention à laquelle l'Union européenne a adhéré en 2015. Ce numéro permet d'attester que la pisciculture respecte les quotas de pêche et qu'il ne s'agit pas d'esturgeons sauvages. Ce poisson est dans la catégorie 2 des animaux menacés. Alors ici, on parle de protection des esturgeons, mais l'Europe impose aussi des règles sanitaires strictes et des contrôles à la douane.
En fait, on vérifie au niveau des germes, au niveau de salmonella, au niveau de listeria, le taux de borax, si c'est pas dépassé.
Pour nos auditeurs, c'est quoi le taux de borax?
Dans le caviar, il y a le acide borique qui est permis, c'est-à-dire on doit mettre un conservateur parce que sinon le caviar ne se conserve pas aussi longtemps. Nous pouvons utiliser que 4 grammes pour 1000 grammes. C'est vraiment très, très limité.
Une fois passée la frontière, l'entreprise reconditionne les œufs qu'elle a achetés. Dans un laboratoire dans lequel il n'est pas question de rentrer sans se laver les mains, des hommes portant des charlottes vident de grandes boîtes de caviar pour remplir de plus petites conserves dorées. John fait partie de l'équipe et à chaque fois qu'il ouvre une boîte, il doit goûter pour s'assurer que le produit est encore frais. Il nous invite pour la dégustation.
Magnifique boîte, vous voyez bien les grains. On va les mettre entre la langue et le palais.
Mais tout ?
Vous allez voir, les grains roulent assez fermes, ça éclate légèrement. Et une fois que vous l'avalez, il n'est pas du tout salé, il n'est pas du tout un goût de poisson. Qu'est-ce que tu en dis ?
Très bon, exceptionnel.
Après sa mise en boîte, ce caviar exceptionnel passe par l'étiquetage. C'est encore une fois une exigence de l'Union européenne.
Le nom scientifique de l'espèce doit absolument être mis sur les boîtes, si c'est aquaculture ou sauvage. Le code pays doit absolument être sur chaque boîte. Ici, c'est N, c'est Chine. De quelle année, de quel laboratoire sort, ça c'est notre numéro d'agrément ici. Et puis ce qui suit, c'est le numéro de CITES de l'exportateur.
On retrouve aussi la valeur nutritive du caviar, les ingrédients, les allergènes, et puis bien sûr son prix. Le caviar que nous venons de goûter coûte 2000 euros le kilo. À ce prix-là, on comprend bien qu'un marché parallèle existe, et c'est cette étiquette qui d'ailleurs peut nous guider pour éviter les arnaques, des escroqueries qui se multiplient sur Internet. Anne Vandenblock travaille au SPF Santé et elle invite à se méfier des offres trop alléchantes en ligne, surtout quand les boîtes ne sont pas étiquetées.
Vous ne savez pas si c'est véritablement même du caviar, parce que ça peut être, par exemple, du caviar des surgeons, au mieux de basse qualité, mais ça peut être également des œufs d'autres poissons, ça peut être de la chair de poisson micronisée, donc qui est préparée en petites sphères, ou bien ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, vous pensez faire une bonne affaire, et en fait, vous en faites une très mauvaise, parce que vous pouvez menacer par votre geste des esturgeons sauvages, et puis vous pouvez mettre en jeu aussi votre santé, n'ayant aucune garantie sur la qualité sanitaire de ce que vous importez.
Le SPF invite à être particulièrement prudent lorsqu'il s'agit d'offres sur des sites iraniens ou ukrainiens. Et pour ceux qui auraient envie de se procurer ces œufs tant convoités à l'étranger, sachez que l'Union européenne autorise aux personnes privées à importer jusqu'à 125 grammes de caviar dans leur bagage. Au-delà de ça, la dégustation risque de vous coûter beaucoup plus cher.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Eval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous proposez le troisième album d'un duo gréco-australien, une association aussi originale que leur musique.
Et oui, et comme son nom l'indique de façon très littérale, Xyloris White, c'est un duo formé par le chanteur et joueur de luth grec George Xyloris et le batteur australien Jim White. Le premier est issu d'une grande famille de musiciens grecs et a fait ses premiers pas sur scène aux côtés de son père, l'auteur-compositeur Psarantonis. C'est d'ailleurs lors d'un concert avec lui, à Melbourne, au tout début des années 90, que le jeune homme rencontre Jim White, à l'époque sur le point de former le groupe Dirty Three, qui va vite devenir culte. Mais ce n'est qu'en 2013 que le grec et l'australien se retrouvent pour enregistrer un album ensemble, sous le nom de Xyloris White. Un autre suit en 2016, et aujourd'hui le duo publie un troisième essai particulièrement concluant, intitulé Mother, mélange parfait entre la sécheresse d'un certain rock et des sonorités propres aux musiques traditionnelles crétoises.
Les dernières notes de Spud's Garden, extrait du dernier album du duo Xyloris et White. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et puis évidemment sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.